Le journal, Sébastien Legenis, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, un rapatriement controversé. 500 Afghans menacés par les talibans ont été accueillis par la France ces derniers jours. Une décision qui ne fait pas l'unanimité, notamment chez les ONG qui estiment cet asile contraire aux intérêts des Afghans. Les lycéens, dans l'attente des résultats du bac, ce sera demain. Inquiétude à Paris où un bug informatique risque de retarder la publication. À suivre aussi un service médical unique en France pour traiter de la dégénérescence maculaire, cette maladie de l'œil qui touche les plus de 75 ans. La suite du procès 3DEC dans ce journal et puis des solutions de stockage d'électricité pour les éoliennes.
Et au micro de Léa Salamé à 20h50, c'est à 7h50, pardon, dans 20 minutes. C'est aujourd'hui, je vous le rappelle, le président de Sanofi France, Olivier Bogio, 7h55. Nouveau rendez-vous, un été avec Colette, signé Antoine Compagnon.
France Inter.
Ils risquent, Sébastien, d'être les premières cibles des talibans.
Les talibans qui menacent de reprendre, on le sait, le pouvoir en Afghanistan après le départ des Américains et qui menacent de s'en prendre à tous ceux qui ont collaboré avec les forces étrangères. Alors face à leur avancée inexorable, Paris a décidé notamment d'accorder l'asile à des Afghans qui ont travaillé pour des organismes français. Une mise en sécurité humanitaire en vertu du principe de précaution, mais qui pourrait aussi donner un mauvais signal sur place en Afghanistan. C'est en tout cas l'avis des ONG. Explication Valérie Crova.
500 personnes sont déjà arrivées en France en provenance d'Afghanistan. Ces Afghans et leurs familles travaillaient pour les lycées français Esteklal ou Malalay, l'Institut culturel français ou la délégation archéologique en Afghanistan. Des personnels considérés par l'ambassade de France à Kaboul comme étant en danger en cas de prise de la capitale afghane par les talibans. Ce n'est pas l'avis de plusieurs ONG. Elles dénoncent une décision unilatérale allant à l'encontre des intérêts de l'Afghanistan. Étienne Gilles est l'un des fondateurs d'Afran qui œuvre pour un meilleur accès à l'éducation des jeunes Afghans.
Tous les professeurs de français de l'Afghanistan ont eu cette proposition de visa et sont partis. Donc tout l'enseignement du français en Afghanistan a disparu, ce qui était un investissement quand même de 100 ans.
Pas question pour autant de faire une croix sur le travail accompli jusqu'à présent. Grâce à Afran, plus de 900 professeurs ont été formés à travers l'Afghanistan, dont la moitié sont des femmes.
Nos formateurs viennent ou sont sur le point de partir pour la France, mais les personnes qu'ils ont formées sont toujours en Afghanistan et donc vont pouvoir poursuivre leur travail.
Nous n'abandonnerons pas l'Afghanistan, martèlent ces ONG qui sont restées lorsque les talibans sont entrés dans Kaboul en 1996, jusqu'à ce qu'ils imposent des contraintes administratives telles qu'elles avaient dû se retirer du pays, la mort dans l'âme.
Valérie Crovaille, ajoutons que depuis que les GIs ont quitté l'aéroport de Bagram vendredi dernier, les talibans ont encore intensifié leurs offensives. Ils se sont emparés hier d'une zone clé près de Kandahar, la capitale régionale du sud du pays.
Il est 7h32, l'inquiétude, Sébastien, autour d'une quatrième vague ne retombe pas.
Depuis 5 jours, la circulation du virus du Covid ne baisse plus. Le variant Delta représente désormais un tiers des nouveaux cas, sans impact à ce stade sur les hospitalisations. Une quatrième vague serait possible dès la fin juillet, selon le ministre de la Santé. Olivier Véran, qui s'est rendu hier au festival Solidays à Paris afin de plaider encore pour la vaccination des soignants. Le vaccin, dit-il, c'est une chance, pas une pénalité. C'est dans ce contexte qu'Avignon remonte sur les planches. Le festival s'ouvre aujourd'hui en version longue avec une cinquantaine de spectacles, mais avec un protocole strict, port du masque obligatoire dans la ville de midi à 2h du matin. C'est un jour que des centaines de milliers de lycéens attendent avec impatience. C'est demain à partir de 8h30 du matin que les résultats du bac seront mis en ligne. Une attente moins stressante toutefois cette année que les autres années, car la plupart des bacheliers connaissent déjà l'essentiel de leurs notes avec le contrôle continu. Mais ce n'est pas le cas des bacheliers parisiens. Les jurys de délibération ont pris beaucoup de retard à cause d'un bug informatique. Les enseignants doivent se réunir aujourd'hui pour harmoniser leurs notes, mais le temps presse, Sonia Princey.
La journée risque d'être très longue pour cette vice-présidente d'un jury de bac. Depuis 15 ans, cette enseignante en région parisienne participe à l'harmonisation des notes et à l'examen des dossiers des candidats pour éventuellement les repêcher. Mais aujourd'hui, tout se fera dans la précipitation.
On va devoir effectuer les délibérations qui auraient dû avoir lieu le 1er juillet puis le 2 juillet et qui n'ont pas eu lieu, c'est-à-dire étudier les cas individuels des élèves avec leur livret scolaire. Donc faire une délibération classique, comme on a l'habitude de faire tous les ans. Mais après, il va falloir encore harmoniser au niveau départemental. Je pense pas que les résultats puissent sortir demain. C'est hallucinant. J'ai jamais vu ça. Enfin, c'est une usine à gaz. C'est incompréhensible, en fait.
À l'origine des dysfonctionnements, un nouveau logiciel où les notes n'ont pas été remontées à temps et une grande désorganisation, comme en témoigne ce proviseur d'un lycée, très inquiet lui aussi pour la publication des résultats du bac prévu demain.
On se demande si en une journée c'est possible. Les personnels sont très fatigués, quelquefois un peu agacés, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'ordres et de contre-ordres. C'est beaucoup de travail, un sous-jury et un jury départemental dans la journée. C'est une grosse machine, il y a eu beaucoup de bugs. Est-ce que les délais seront tenus? On se pose la question.
Le ministère reconnaît qu'il faut s'adapter à de nouveaux outils liés à la réforme du bac, avec un grand nombre de candidats en région parisienne, mais assure que les résultats seront bien proclamés demain partout en France.
Sonia Princey, en bref, à l'étranger, les terribles incendies qui ont ravagé Chypre ce week-end semblent quasiment maîtrisés ce matin, mais laissent derrière eux un lourd bilan, 4 morts et des milliers d'hectares de forêts détruites. Le pape, lui, est à l'hôpital. François, 84 ans, a subi hier une intervention chirurgicale programmée pour une inflammation du côlon. Selon le Vatican, le pape a bien réagi. Au chapitre sanitaire encore, cette unité de soins unique en France qui ouvre ses portes à Créteil, un service flambant neuf dédié entièrement à la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, une pathologie de l'œil qui touche 25 à 30% des plus de 75 ans, Véronique Julia.
Une déformation brutale de la vue, une tache noire au centre de la vision ou même une aggravation soudaine chez un patient déjà suivi. Les pathologies de la macula, zone centrale et essentielle de la rétine, doivent être prises en charge au plus vite pour éviter une perte de vue définitive sans que s'écoulent des jours ou des semaines entre l'identification du problème et son traitement effectif. À Créteil, les urgences macula permettent cette prise en charge immédiate. Le professeur Eric Souyed est le chef de service.
Quand il y a le feu, vous ne prenez pas rendez-vous avec les pompiers. Si un patient a tout à coup des déformations, il ne téléphone pas pour prendre rendez-vous.
En une seule journée, et même en seulement quelques heures, parfois même sans changer de pièce, car les cabines de consultation sont toutes hyper équipées, un diagnostic précis sera posé et le patient aura même pu bénéficier d'une injection intravitréenne dans l'œil. Quand on sait que la plupart de ces patients sont âgés, c'est un gain de temps et d'énergie.
La moyenne d'âge de nos patients d'MLA est 82 ans. Il y a des papy-mamies qui ne sont pas toujours mobiles et qui peuvent avoir des difficultés ou d'autres pathologies, se déplacer, aller sur un autre appareil, attendre sur un tabouret, c'était assez pénible.
Ce flux rapide et confortable pour le patient est rendu possible notamment par un équipement unique en imagerie rétinienne.
Nous sommes sans aucun doute actuellement le service le plus équipé à l'international. Ça, c'est un appareil Spectralis. On voit au micron près chaque partie de la rétine. On va dire c'est la Rolls. Là, on en a 15 dans le service, c'est pas mal.
Dans ces murs tout neufs et grâce à ce parcours optimisé, le centre prévoit de doubler, voire tripler à terme le nombre de patients traités.
Véronique Julia du service santé de France Inter. Suite et fin du procès 3AD que la troisième et dernière semaine des audiences débute aujourd'hui dans le box Hubert Caouissin qui reconnaît avoir tué il y a 4 ans son beau-frère, sa belle-sœur et leurs deux enfants, persuadé qu'il cachait un trésor familial, un trésor dont il continue de penser qu'il existe contre toute vraisemblance. Signe du délire paranoïaque diagnostiqué chez l'accusé et là-dessus, tous les avis des experts sont unanimes, Corinne Audouin.
Il n'y a pas de bataille d'experts autour du cas d'Hubert Caouissin. Psychologues et psychiatres ont diagnostiqué sans le moindre doute un délire chronique à thématique persécutive, c'est-à-dire un délire paranoïaque sur une personnalité fragile. Avec sa compagne Lydie Troadec, ils ont adhéré à la conviction qu'un magot existait dans la famille dont elle aurait été spoliée. Depuis les faits, Lydie Troadec a pris de la distance avec ses croyances, pas Hubert Caouissin. Sa conviction reste totale. Il a pu admettre au cours du procès que peut-être son beau-frère et sa belle-sœur ne voulaient pas vraiment tuer son fils, mais lui faire du mal, il en reste persuadé. Même si les psychiatres estiment qu'il ne présente pas de danger criminologique, ses idées délirantes risquent de rester inébranlables. Ils ont retenu une altération de son discernement au moment des faits, ce qui signifie qu'Hubert Caouissin avait au moins en partie conscience de ce qu'il faisait. Cette altération du discernement, si elle est retenue par la cour d'assises, peut se traduire par une diminution de la peine prononcée.
Verdict attendu mercredi soir. C'est une nouvelle cyberattaque internationale très sophistiquée. La société américaine Kaseya, qui fournit des logiciels de gestion à plus de 1000 entreprises dans le monde, a été l'objet d'une demande de rançon en ligne. Une attaque d'une telle ampleur qu'il sera difficile de répondre à toutes les victimes, selon le FBI. Une grande chaîne de supermarchés suédoise, notamment, a dû fermer 800 de ses magasins ce week-end.
Et pour terminer, terminer, Sébastien, voilà une solution qui fera peut-être taire les violentes critiques contre les éoliennes.
Éoliennes accusées, on le sait, de gâcher le paysage, mais aussi de fonctionner de façon trop intermittente et donc difficile à gérer. Eh bien, depuis ce week-end, RTE teste un nouveau système capable de stocker dans des batteries l'électricité produite par les éoliennes pour les rendre plus rentables. C'est une première en France. Reportage signé Célia Kiré en Bourgogne.
Sur le site, qui ressemble à un poste électrique au milieu des champs, on les entend à peine, ces batteries rangées très serrées dans 10 hangars blancs en forme de conteneur. Pour les voir, il faut ouvrir une porte. Mathieu Pafundi est le chef de projet.
Vous vous trouvez devant la salle batterie. Il y a effectivement environ 600 modules batterie qui sont interconnectés entre eux, ce qui représente environ 750 zoé. On pourrait effectivement reprendre la production de 6 éoliennes pendant 2 heures.
Et en effet, ces batteries sont situées tout près d'un parc éolien. RTE a placé des capteurs sur son réseau pour repérer les moments où le stockage est nécessaire. Tout est automatisé. Le principe est de récupérer l'énergie qui ne peut pas être consommée tout de suite. Et c'est peut-être une solution pour mieux piloter les éoliennes, explique Xavier Piechazic, le président de l'entreprise RTE, Réseau et Transport d'électricité.
Parfois, quand il y a beaucoup de vent, on a un surplus de production d'électricité parce que cette production d'énergie, elle est variable. On capte ce surplus, on le stocke et on le décharge sur le réseau quand on en a besoin. Il est dommage de perdre de la production d'énergie renouvelable qui est décarbonée.
En moyenne, les éoliennes terrestres fonctionnent 30% du temps, mais parfois, si elles sont à 100% au mauvais moment, il faut même les arrêter. Ce site de stockage est en test pendant 3 ans. Il y en a 2 autres en France, un dans les Hautes-Alpes et un près de Limoges. Le but est de mieux maîtriser les énergies renouvelables pour les rendre plus efficaces.
Célia Kiré, puis toujours au chapitre environnement, ajoutons que Total s'engage à cesser l'utilisation d'huile de palme en 2023, accusée de favoriser la déforestation.
Merci Sébastien Legénie, l'édito politique à suivre.